Vous écoutez
RMC.
Mercredi 17 juin,
l'info sur RMC.
8h02, merci d'être avec nous. C'est Céline Kallmann qui est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Une femme en blouse blanche violemment interpellée, tirée par les cheveux en marge de la manifestation parisienne. Les images tournent en boucle. L'infirmière est toujours en garde à vue. Dans ce journal, un témoignage RMC, celui du père du jeune Tchétchène dont l'agression est à l'origine des violences ces derniers jours à Dijon. L'homme appelle au calme. Et puis, une lueur d'espoir dans le traitement contre le Covid. L'OMS parle de percée scientifique. Un médicament réduirait la mortalité des patients gravement atteints. Bienvenue à tous sur RMC. C'est l'image qui a enflammé les réseaux sociaux hier soir, une scène qui a marqué les esprits et qu'il faut resituer dans son contexte. Celle d'une femme en blouse blanche, violemment interpellée, tirée par les cheveux en marge de la manifestation des soignants à Paris. Il s'agit d'une infirmière de 50 ans, arrêtée notamment pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Hier soir, une trentaine de personnes se sont spontanément réunies devant le commissariat où elle a été placée en garde à vue, près de la place des Invalides, où cette soignante a donc été interpellée. Thomas Chupin.
Il est 5h moins le quart hier soir. Fin de manifestation, cela fait de nombreuses minutes que des casseurs font face à la police. Et au milieu, une blouse blanche, une femme qui jette des projectiles maladroitement sur les forces de l'ordre qui les insultent. Et finalement, les policiers interviennent.
Je suis infirmière, je fais de l'âge.
Fallait réfléchir avant.
Interpellation musclée, l'infirmière ne se laisse pas faire. Elle est tirée par les cheveux et mise à terre.
S'il vous plaît.
Images qui ont choqué Lucien, un proche de la famille.
Ce qui m'a vraiment surpris, moi, c'est la violence de l'interpellation. Elle est à genoux. Je vois pas ce qu'elle pouvait faire pour se défendre et ce qui les mettait en danger.
Il faisait partie d'une trentaine de personnes qui se sont rassemblées hier soir devant le commissariat où l'infirmière a été emmenée.
Elle a travaillé pendant 3 mois pour aider les gens qui subissaient le Covid. Elle l'a elle-même subi. Et aujourd'hui, elle est interpellée pendant une manifestation où elle demande de sauver l'hôpital public. Ça me crève le cœur, je vais pas vous mentir.
Infirmière à Villejuif dans le Val-de-Marne. Elle a reçu le soutien de la CGT locale. Benjamin Amar en est le porte-parole.
Elle reconnaît avoir jeté des choses, des projectiles sur la police. Elle en est navrée. Donc nous on est là pour dire un petit peu d'indulgence. Une infirmière de 50 ans, si à un moment elle a la colère qui l'envahit comme ça, faut qu'on se pose les bonnes questions.
Un des policiers atteints par les projectiles lancés par l'infirmière devrait déposer plainte aujourd'hui.
32 personnes ont été interpellées à Paris, des affrontements également à Lille, Toulouse et Nantes. Des violences qui rappellent des scènes d'avant la crise du Covid-19. Pour le sociologue Jean-François Amadieu, ces violences étaient à craindre après plusieurs mois sans manifestation.
On s'attendait depuis longtemps à une reprise de manifestations agitées avec un retour de militants, black bloc comme on dit, de l'ultra-gauche ou de gilets jaunes radicalisés. Le fait que pendant plusieurs mois il n'y ait plus de manifestations fait que là, l'occasion se présente. Il semble bien qu'il se crée une sorte de convergence qui pourrait d'ailleurs prendre beaucoup plus d'ampleur, dirigée contre les forces de l'ordre. Peut-être là un élément nouveau par rapport à ce qu'on a connu à proprement parler depuis 2 ans.
Au total, 250 manifestations. La plupart se sont déroulées dans le calme, il faut le souligner. Édouard Philippe a dit entendre parfaitement les revendications. Hier soir, il a de nouveau promis une réponse massive et très significative. C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale examine un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet avec une période transitoire jusqu'à l'automne. L'inquiétude ce matin en provenance de la Chine, Pékin, quasiment coupé du monde, résurgence des cas de Covid, 100 en 5 jours. Résultat, les 2 aéroports de la ville annulent plus 1 000 000 de vols. Pékin demande à ses habitants d'éviter les voyages non essentiels en dehors de la ville et toutes les écoles sont à nouveau fermées. L'inquiétude en Chine, mais l'espoir en provenance du Royaume-Uni. Des chercheurs ont peut-être trouvé un remède miracle, un corticoïde qui réduirait considérablement la mortalité chez les patients les plus graves. Florian Chevalet.
Son nom, le dexaméthasone, un médicament de la famille des stéroïdes. Il réduirait d'un tiers la mortalité chez les malades du Covid placés en réanimation. Lors de son audition par l'Assemblée nationale hier, le directeur de la santé, Jérôme Salomon, n'a pas caché son enthousiasme.
La dexaméthasone, qui est pour la première fois une molécule qui semble donner vraiment des résultats tout à fait significatifs sur la mortalité, et en particulier la mortalité des patients les plus graves.
Autre bonne nouvelle, la molécule est ancienne, peu coûteuse et accessible. Elle a déjà été utilisée durant la crise sanitaire. C'est le cas du professeur Jean-Michel Constantin, le chef du service de réanimation de la Pitié Poitiers-Salpêtrière à Paris décrit des résultats spectaculaires sur beaucoup de ses patients.
Pour nous, c'est une vraie bonne nouvelle parce que ça nous pousse un peu plus dans ce qu'on avait testé, dans le sentiment qu'on avait. On a une preuve.
Aujourd'hui, ce corticoïde devrait donc être prescrit plus souvent et plus tôt dans le traitement du Covid-19.
Tout de suite, ça va être très utile au Brésil, en Amérique latine, là où ça flambe. Ce sera utile en France si jamais il y a une deuxième vague, qu'elle soit dans quelques semaines ou à l'automne ou plus tard.
Pour connaître les résultats précis de l'étude, il faudra encore attendre sa publication complète.
RMC, 8h07, la soirée a été calme à Dijon. Le gouvernement a répondu aux violences de ces derniers jours. 150 gendarmes déployés en plus. Un témoignage RMC à présent, celui du papa du jeune Tchétchène de 16 ans blessé il y a une semaine. C'est son agression qui a tout déclenché. Son papa appelle ce matin à la fin des affrontements. Maxime Brandstatter et Nicolas Traîneau l'ont rencontré pour RMC.
Le visage émacié, Zelim Khan est encore traumatisé par le passage à tabac de son fils de 19 ans dans son propre quartier.
Il était menacé en mort, mais a reçu un coup de crosse des pistolets sur la tête. Je ne veux pas parler de ça. Mon fils, il est quelqu'un de sportif, rien à voir avec le droit.
Suite à l'agression, près de 200 Tchétchènes sont venus de toute la France et d'Europe pour venger son fils aîné. Zelim Khan a perdu le contrôle des événements.
Les gens sont venus spontanément. C'est la solidarité. C'est toujours été comme ça chez nous. C'est plus dur à dire d'arrêter de venir. Et après, ce qui est passé, c'est pas bonne image pour notre ville.
Le réfugié politique Tchétchène lance un appel au calme avec plusieurs membres de sa communauté et Younous, un jeune turc venu apporter son soutien.
Des vidéos pour chauffer l'atmosphère sur les réseaux sociaux, il faut l'arrêter, que ça soit turc, tchétchène, arabe, parce qu'on est tous des frères, on vit tous ensemble. Il faut pas inciter à la haine, c'est tout.
Ils ont tous les deux partagé un moment de réconciliation hier soir avec d'autres musulmans de la région dans une mosquée de la ville pour sceller un semblant de paix dans le quartier.
L'agresseur de Marin va-t-il être libéré aujourd'hui? En novembre 2016, à Lyon, Marin, 20 ans, était tabassé à coups de béquille pour avoir défendu un couple qui s'embrassait dans la rue. Marin a aujourd'hui de très lourdes séquelles neurologiques. Son agresseur avait été condamné à 7 ans et demi de prison en 2018. Il y a deux mois, il a fait une demande de libération conditionnelle. La cour d'appel de Lyon doit donc statuer aujourd'hui. Cyprien Pézeril.
De l'inquiétude pour Audrey Sauvageon, la mère de Marin. Elle craint que l'agresseur de son fils sorte de prison en ayant réalisé moins de la moitié de sa peine.
À mon avis, il n'a pas encore compris la gravité des choses. Et c'est pas pour tout de suite, et c'est pas en essayant de sortir tout le temps au plus tôt qu'on comprend et qu'on prend conscience des choses. Une décision de justice a été prise il y a maintenant 2 ans. On aimerait juste qu'elle s'applique, en fait, et pouvoir passer notre énergie à autre chose.
Sauf que l'avocate de l'agresseur l'assure, son client a changé. Des lettres d'excuses écrites à Marin, un diplôme d'électricien obtenu pendant son incarcération. Bref, de quoi se réinsérer dans la société, mais pas suffisant pour Audrey Sauvageon. Elle appréhende la décision de la cour d'appel.
On a l'impression d'être impuissant. Quelque chose ne nous appartient plus, clairement. C'est plus entre nos mains. J'ai pas voulu me pencher sur les recours. C'est peut-être une espèce de superstition. Je préfère penser et me dire que la décision sera la bonne, que ce sera une décision cohérente avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant.
Depuis sa sortie du coma, Marin suit de longues séances de rééducation, tente de retrouver une vie à peu près normale, mais craint désormais une chose, de retomber sur son agresseur dans la rue.
Football, la Bundesliga et la Liga ont repris. La première ligue redémarre aujourd'hui. À Caen, le grand retour de la Ligue des Champions. Le PSG et Lyon, seul club français encore en lice, sont impatients de connaître leur futur calendrier européen. Loïc Braillet, c'est aujourd'hui que l'UEFA va enfin lever le voile sur la fin de saison européenne.
Lorsque la crise du Covid-19 frappe le foot européen à la mi-mars, il reste 4 huitièmes de finale retour à jouer, dont le fameux Juventus-Turin-Lyon. Ces 4 matchs doivent être reprogrammés les 7 et 8 août. Place ensuite pour les 8 équipes restantes au tour à élimination directe sur un seul match et non plus en match aller-retour. Tout se tiendrait en 10 jours. Les quarts de finale du 12 au 15 août, les demi-finales les 18 et 19 août et la finale le dimanche 23 août. Pour faciliter et limiter les déplacements, à partir des quarts de finale, tous les matchs se joueront dans une seule ville, Lisbonne, au Portugal, qui dispose de 2 grands stades et où l'épidémie a été plutôt bien maîtrisée. L'UEFA espère pouvoir en plus accueillir du public et a prévu le même modèle pour la Ligue Europa, dont la formule finale, elle, devrait se tenir à Francfort, en Allemagne.
Notez qu'hier soir, le Bayern Munich a remporté un 30e titre en championnat, sans spectateurs, sans public non plus. L'US Open, ouais, qui aura bien lieu le 31 août, du 31 août au 13 septembre, ce sera à huis clos.
Quelle tristesse, ces spectacles sportifs sans spectateurs. Mais alors, quelle tristesse. Bien, il est 8 ans, oui, j'espère que le public va pouvoir revenir à la fin du mois de juillet. D'ailleurs, finale Coupe de la Ligue, Coupe de France, on espère avec des spectateurs. Nous verrons bien. Il est 8h11, le docteur François Salacas est avec nous, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre du collectif Interhôpitaux. Bonjour, docteur Salacas, merci d'être avec nous. On se souvient de votre interpellation d'Emmanuel Macron, ça a fait le tour de toutes les images, télévision et les réseaux sociaux. Mais parlons de ce qui s'est passé hier partout en France. Je dis bien partout en France, il y a eu des rassemblements de personnels soignants qui se sont dans l'ensemble fort bien passés, avec des images formidables de fraternité entre le personnel soignant et les forces de l'ordre et le grand public. François Salacas, c'est d'abord cela que vous retenez de cette journée d'hier.
Ah oui, je pense que c'est vraiment une réussite, hein. 18 000 personnes à Paris et sur l'ensemble de la France, des rassemblements qui ont été à la fois avec très nombreux, mais aussi avec une ambiance très claire, que le soutien de la population, de la société civile, je ne sais pas, de notre État républicain pour les soignants, il est total. Il est total et je pense que les citoyens ont du mal à accepter un échec des négociations actuelles sur les salaires.
Je crois. Alors que... justement, le Ségur de la santé, point d'étape demain, moment très important. Lundi matin, j'étais avec Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics. C'est lui qui tient la bourse, hein. Et j'ai insisté sur les 300 euros. Il m'a pas dit non, il m'a pas vraiment dit oui, mais j'ai senti que l'État était sur le point de céder sur ces fameux 300 euros, François Salacas. Que alors, savez-vous?
Je suis désolé pour votre émission, j'ai pas de délit d'initié et je peux pas vous annoncer ici. C'est dans la poche.
Oui.
Non, ce qui est très clair, c'est que je pense que le timing, c'est-à-dire le fait qu'on aboutira à quelque chose dans une quinzaine de jours, ça c'est à peu près certain. Ce qui est moins certain, c'est le niveau et le périmètre d'application de ces augmentations de salaire. Et je pense qu'il va falloir bien calibrer, comme disent les technocrates, parce que si on est en dessous, et je donnerai pas de chiffres ici,
mais bien sûr.
Si on est en dessous, la colère va être terrible, parce que la colère, elle est accumulée.
Il faut que le gouvernement l'entende. Les 300 euros, c'est indispensable pour calmer la juste colère du personnel soignant qui est moins bien payé à l'hôpital public en France que dans les autres hôpitaux des pays d'Europe, François Salacas.
Oui, non, c'est ça qui se passe. Alors, je voudrais pas qu'on oublie quand même les autres piliers du Ségur, parce que le pilier rémunération est extrêmement important.
Oui.
Et c'est là-dessus.
Mais c'est le premier pilier.
C'est le premier pilier et il est peut-être le plus avancé. Après, il y a
300 euros rémunération. Je vais y revenir. Mais 300 euros pour qui? Pour les infirmiers, infirmières, évidemment, mais pour tout le personnel soignant de l'hôpital.
Ah, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un hôpital, ça tourne pas que avec des infirmières et des aides-soignants. Donc le périmètre d'application, il doit être plus large. Ce que je veux juste faire comprendre à l'ensemble de la population, c'est que à l'heure où je parle, l'hôpital public n'a pas redémarré. Il est sur 2 cylindres, 2 sur 4 cylindres. C'est-à-dire que la capacité qu'on a à hospitaliser les patients n'a pas repris. Pour une raison simple, c'est que les carences de personnel qui existaient avant la crise du Covid n'ont pas été modifiées. Donc ça veut dire que là, si on n'a pas une politique extrêmement volontariste pour embaucher rapidement à l'hôpital public, on ne redémarrera pas et on ne fera pas face ni à une deuxième vague. C'était un fusil à un coup, là, le Covid. Il faut être très clair là-dessus. Donc, ni à une deuxième vague, ni même à la prise en charge standard des patients qui ont besoin de l'hôpital public. Et pour embaucher vite, il faut augmenter les salaires. Et deuxième chose, il faut permettre au personnel de travailler dans des conditions d'effectifs qui ne soient pas indignes et qui ne soient pas en conflit avec leurs valeurs. Les personnels qui travaillent à l'hôpital public, ils ont des valeurs.
Mais ils ont des valeurs. Vous venez de prononcer un mot que j'aime. Ils ont des valeurs professionnelles, une éthique professionnelle. Pendant cette crise sanitaire, ils ont retrouvé ces valeurs. Ils ont retrouvé ce goût du travail, ce goût de ce travail qu'ils aiment. Ils se sont battus et tout à coup, on retournerait en arrière après ce qui s'est passé, ça sera encore pire.
Non, mais c'est
la colère sera encore pire.
Absolument, c'est un ascenseur émotionnel et je pense qu'ils ne le supporteront pas. Et il y aura des grands brûlés de la crise du Covid si jamais il faut finalement reprendre le business as usual à l'hôpital public. Ça, c'est pas admissible. Donc, je pense vraiment que le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur Et je pense qu'il a intérêt à très bien calibrer ces augmentations de salaire et qu'on puisse réembaucher.
Et une réorganisation de l'hôpital
public. Oui, alors là, quand on parle de réorganisation, c'est toujours très compliqué. Il y a une chose très simple, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que finalement, qui dirige l'hôpital ? Pour l'instant et depuis 10 ans, c'est les directeurs administratifs qui ont l'œil rivé sur le budget et tout le reste est une variable d'ajustement. Quand je dis tout le reste, c'est-à-dire la mission principale de l'hôpital, c'est-à-dire le soin, ça c'est fini. Il n'est plus admissible qu'on gouverne l'hôpital en fonction d'objectifs budgétaires simplement, avec une tarification à l'activité, qui fait que finalement, ce qui est important pour un directeur d'hôpital, c'est pas la qualité des soins. Je suis désolé de le dire, mais nous n'avons pas actuellement, la communauté des soignants n'a pas les mêmes objectifs que les directeurs d'hôpitaux. Il faut le dire, c'est pas politiquement correct, donc je le dis ici. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et il faut que la gouvernance change. Et pour ça, il faut bien sûr que les médecins réaccèdent au poste de décision de l'hôpital, mais pas que les médecins. Les médecins ne sont pas tout seuls. Il y a des personnels paramédicaux, ce qu'on appelle des infirmières, des cadres qui sont là pour organiser l'équipe de soins. Et si on ne les fait pas remonter au plus haut niveau de la gouvernance, mais ce n'est même pas la peine de penser que dans un hôpital moderne, on va pouvoir redémarrer. Il faut redémarrer avec des moyens, avec un changement de gouvernance et la belle énergie qu'a décrit le président de la République en disant c'est formidable cette belle énergie du Covid, il ne faut pas la laisser retomber, mais tout est dans ses mains. Tout est dans ses mains, tout a été dit par notre collectif. Je redis au passage, hein, il n'y a aucune honte à être syndiqué, mais le collectif Interhôpitaux, ce n'est pas un syndicat,
mais bien
c'est
sûr.
Un collectif.
Mais voilà. Bien sûr.
Et qui s'est constitué sur des valeurs et sur une énergie que je qualifierais l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que si on ne sauve pas l'hôpital public maintenant, c'est fini.
Oui, mais docteur François Salacas, justement, je vais terminer avec ça. J'ai pas voulu commencer avec ça. Mais quand vous voyez des heurts qui se sont produits hier à Paris, ça vous met en rage, j'imagine, non ? Qu'on vienne abîmer ce... Parce qu'il y avait beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnel soignant, je crois, dans la rue.
Si on regarde un peu la sociologie de cette manifestation, je crois que c'est très important de dire que les premières étaient peut-être très médicales, celle-là a été très paramédicale, avec beaucoup d'aides-soignantes, beaucoup d'infirmières, pour une raison simple, c'est que je pense que le personnel hospitalier croit au fait qu'on va pouvoir effectivement obtenir quelque chose de significatif et de digne. Première chose. Deuxième chose, il y avait beaucoup d'usagers, et partout en France, et y compris dans Paris, Nous sommes allés au contact des usagers, vous savez, il y a les applaudissements.
Oui, bien sûr.
Là, on est venu les provoquer, finalement, parce qu'on a besoin des usagers. Si on n'est pas soutenu par l'ensemble de la population, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour ce qui est des Black Blocs, franchement, moi, je pense que c'est un non-événement.
Oui.
Dans une manifestation, les Black Blocs, sauf à dire qu'il faut que les...
Chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont là, maintenant.
Alors... Voilà. Donc, et la question de savoir, c'est si, à qui on rend service en parlant.
Oui. Merci, docteur François Salacas. Vous êtes neurologue, je le rappelle, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre du collectif Interhôpitaux. Merci et nous attendons avec impatience les résultats. Déjà le point d'étape demain sur le Ségur et puis les décisions qui seront prises par le gouvernement. Les 300 euros, c'est indispensable. Il est 8h20, vous êtes sur RMC dans 2 minutes. Qu'allons-nous faire ?
On va parler d'un autre secteur à qui le gouvernement a promis des milliards d'euros. Le marché automobile. Mais oui, ça repart en particulier l'occasion, beaucoup plus que le neuf. Guillaume Paul est avec nous dans une minute sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Guillaume Paul est avec nous, ça va Guillaume ?
Ça va bien Jean-Jacques.
Si nous parlions de l'automobile, poussons la porte des concessions automobiles. Est-ce que la reprise est là ? Il y a beaucoup de monde dans les concessions automobiles. Beaucoup de monde qui viennent. Mais pour acheter quoi ?
Bah des véhicules d'occasion.
Ah bah oui, on n'achète pas de neuf.
Voilà, c'est la petite lueur d'espoir. Alors les chiffres sur 5 mois, le comité des constructeurs nous dit sur 5 mois, le marché du neuf, il fait moins 50%. Le marché de l'occasion, il ne fait plus que moins 25%, ça repart.
Il ne fait plus que moins 25%. Ça monte, achète beaucoup.
Et ça s'accélère au mois de juin. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va vers le marché de l'occasion ? Bah évidemment la prime à la conversion, vous savez, qui a été annoncée. Parce que pour la première fois, elle a été étendue au marché de l'occasion. 3000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique, diesel et essence. Vous avez des sites spécialisés à Aramis Auto qui vous dit, je fais 20% de mon activité avec la prime en ce moment. Ça fait des véhicules, évidemment, qui sont encore plus abordables que d'habitude. Et qui sont disponibles plus vite. Vous n'avez pas besoin de les attendre des semaines en concession. Là, ils sont là tout de suite, ces véhicules. Pour
oui, à Aramis Auto, donc vous le dites, c'est 20% de nos ventes
avec cette prime en ce moment.
Avec cette prime. Ben oui, cette prime, elle marche fort. Comme quoi, hein. Comme quoi, ouais, c'est ça. La prime à la conversion joue. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y avait de gros stocks d'invendus, même avant la crise.
Mais c'est ça aussi qui pousse les concessionnaires à faire des rabais, c'est que leur parking déborde. Parce que je vous rappelle ce qui s'est passé en début d'année. 1er janvier, Bruxelles impose, avait des normes environnementales beaucoup plus contraignantes aux constructeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on avait vu venir le coup. Jusqu'à la fin décembre, ils ont immatriculé, pas vendu, mais immatriculé des tonnes de véhicules en se disant c'est pas grave, on va les mettre en concession. Et puis en 2020, on les vendra moins cher, mais c'est pas grave, ça a toujours ça de prix. Et puis on les a vendus un petit peu janvier-février, et puis mars, le confinement est arrivé. On est en juin, et ils se retrouvent avec des centaines de milliers de véhicules qui ont
donc
zéro.
Il y a des affaires à faire.
Oui, zéro kilomètre au compteur, mais déjà considéré comme de l'occasion. Et qu'il faut écouler, parce qu'on considère qu'un véhicule qui reste un mois sur le parking d'un concessionnaire, il perd 2% en moyenne de sa reprise. Mais oui, c'est ça, ça se déprécie avec le temps.
Ça se déprécie
donc
avec le temps.
Donc ces véhicules d'occasion de quelques mois, ils partent comme des petits pains. Et alors, les sites vous disent, on vend aussi, à l'inverse, des véhicules qui ont plus de 15 ans, 16 ans. On recommence à les vendre, parce que aussi ceux-là sont pas chers. Et ça répond à une préoccupation du moment. Donc ce marché de l'occasion, c'est la petite lueur d'espoir qui va sans doute aider le marché auto à redémarrer plus vite. Mais ça, c'était prévu de toute façon.
Évidemment. Bah, merci beaucoup Guillaume, merci d'être avec nous le matin. Merci à toute l'équipe, Mathieu Rouault depuis 4h30.
Avec plaisir.
Avec Anaïs Castagna, Quentin Vinet évidemment aussi, qui est là tous les matins. Et puis nos équipes du Standard, les équipes techniques, tout le monde. Charles Magnin, bien sûr. Vous êtes avec nous le matin, vous avez l'habitude, 3216, vous appelez, c'est notre lien, nous serons là demain évidemment sur RMC Découverte, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Dans un instant, je suis avec Aurore Berger, c'est très intéressant. Aurore Berger est députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche de l'Assemblée Nationale et surtout proche du Premier ministre Édouard Philippe. Nous allons parler de toute l'actualité avec elle. Il est 8h28, merci RMC BFM TV dans quelques minutes.
RMC, Bourdin Direct.
Les infos, Pierrick Bonneau. Pierrick, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Un débat qui s'annonce agité à l'ordre du jour de l'Assemblée, examen par les députés d'un projet de loi qui doit organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, avec une période transitoire jusqu'à l'automne, durant laquelle des restrictions seront encore possibles. Les oppositions dénoncent un état d'urgence qui ne dit pas son nom. Dans l'ensemble, l'ambiance était plutôt bon enfant, mais voilà quelques centaines de casseurs qui n'avaient rien à voir avec le secteur hospitalier. Elles sont venues perturber hier à Paris et à Nantes la mobilisation des soignants qui réclamaient davantage de moyens au gouvernement. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants un peu partout en France, 18 000 selon la CGT à Paris, et ces images de violence à l'arrivée du cortège aux Invalides. Les craintes d'une deuxième vague en Europe, ravivées ces dernières semaines, ces derniers jours, par la situation en Chine. Pékin annonce ce matin que les deux aéroports de la capitale ont annulé plus d'un millier de vols après un rebond du nombre de cas. Pékin en alerte après que plusieurs foyers de contamination ont été identifiés ces dernières heures. 137 nouveaux cas en 6 jours. D'où l'inquiétude des autorités chinoises. Dans deux minutes sur RMC et BFM TV, la députée En Marche, Aurore Berger, elle est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin.
RMC Bourdin Direct,
Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Aurore Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Aurore Berger, avant de revenir sur les revendications des soignants, du personnel soignant, quelques mots sur le Covid-19 en Chine. On commence à s'inquiéter à nouveau à Pékin, pas dans toute la Chine, mais à Pékin. J'ai eu beaucoup de messages d'auditeurs qui s'inquiètent en France, qui nous disent, ce matin sur RMC, qui nous disent, mais attention, est-ce qu'on va revivre un reconfinement? Est-ce qu'un reconfinement est possible en France?
Alors, je peux pas vous répondre en vérité. Oui. Et vous savez, beaucoup de ceux qui se sont souvent exprimés ont été ensuite démentis beaucoup de sujets sur le Covid. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une très faible circulation du virus. Et c'est parce qu'on a une très faible circulation du virus qu'on peut passer l'Île-de-France en zone verte et qu'on peut reprendre une vie qui est de plus en plus normale, habituelle, la question de la réouverture notamment des écoles, des lieux culturels. Par contre, on le dit, faible circulation ne veut pas dire que ça ne circule plus du tout. Et donc, le maintien des fameux gestes barrières qu'on s'est tous appropriés est absolument nécessaire. Il faut qu'on garde absolument cette
vigilance. On ne pourrait pas revivre un reconfinement. Je vois pas comment notre société pourrait revivre un reconfinement.
Ce qui est certain, c'est que notre société, elle a tenu oui. grâce au confinement.
Oui.
Ça, c'est ce que vous disent aussi les médecins. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, les moments de tension qui auraient pu exister sur le nombre de lits de réanimation notamment, eh bien, grâce au confinement, on a pu réduire le pic épidémique et on n'a pas eu des situations de tension comme on l'a pu le connaître malheureusement dans d'autres pays. Donc, en vérité, je dois être honnête ce matin, je ne peux pas vous répondre à cette question. Et personne ne peut le faire parce que personne ne peut prédire une deuxième vague épidémique. Souvent, ceux qui prédisent une deuxième n'avaient pas vu la première. Donc, je pense qu'il faut juste de la prudence.
Sauf qu'aujourd'hui, on est mieux armé qu'avant pour faire face Évidemment. À une nouvelle vague épidémique.
On est mieux armé en termes de logistique voilà. et on a vu à quel point aussi nos soignants, et j'imagine qu'on va en reparler, particulièrement en capacité d'être réactif, d'être agile pendant la crise.
Alors encore un mot tout de même, on attend les précisions du ministère de l'Éducation nationale, il faut absolument que les enfants retournent à l'école. Vous êtes sur ce terrain-là, vous
Aurore Berger. Je suis sur ce terrain-là et j'invite les parents...
Est-ce qu'il faut encore assouplir les règles sanitaires?
Alors elles vont l'être, le nouveau protocole sanitaire va paraître ce matin de manière à assouplir les règles.
Parce que dans les petites communes...
Les écoles rurales notamment, je suis élue d'un territoire rural, donc évidemment. Je vois bien les difficultés que ça peut engendrer, avoir 4 mètres carrés par enfant, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Donc là, évidemment, les règles vont être assouplies, il y aura des distances encore à respecter, des gestes barrières à respecter. Mais je le dis surtout aux parents qui peuvent nous écouter ce matin. Nous avons besoin que les enfants reviennent à l'école. C'est un enjeu pédagogique, c'est un enjeu de sociabilisation qui est majeur. On ne peut pas avoir des enfants qui, pour certains d'entre eux, n'auront plus eu aucun contact pour plein de raisons économiques, culturelles, d'équipement, avec le monde éducatif pendant plusieurs mois. Là, on a l'opportunité qu'ils reviennent. On va avoir aussi la mise en place de dispositifs spécifiques pendant les vacances pour permettre à ceux qui ont peut-être été plus fragilisés pendant la crise de pouvoir continuer à avoir accès à l'éducation pendant les mois de juillet et d'août. Les communes sont très engagées sur le sujet, le ministre Jean-Michel Blanquer. Et il faut vraiment que les parents comprennent que c'est l'intérêt des enfants. Je peux très bien comprendre les inquiétudes au départ qui ont fait que les parents n'ont pas osé remettre leurs enfants immédiatement à l'école. Mais là, c'est un impératif. Les enfants doivent revenir.
Aurore Berger, les soignants, manifestations, rassemblement de soignants en province et à Paris. Nous avons vu des images bien différentes, des images de fraternisation entre des soignants, des policiers, de très belles images en province notamment. Et puis, nous avons vu aussi à Paris, notamment ces images d'affrontements avec la police. Que retenez-vous de cette journée?
Déjà, ceux qui ont cassé, et notamment dans les images violentes qu'on a pu voir à Paris, c'est pas les soignants. Il peut toujours y avoir une ou deux personnes isolées, il peut toujours y avoir un ou deux débordements.
Que pensez-vous de cette infirmière qui a jeté des pierres sur la police et qui a été interpellée d'une manière assez violente et qui s'est retrouvée, qui est toujours en garde à vue d'ailleurs?
J'en pense que je vois une femme qui est en train de lancer des projectiles sur la police, que le policier a été blessé, qu'il a d'ailleurs porté plainte puisqu'il a été vraisemblablement violemment percuté. Je crois que c'est pas anodin de jeter des projectiles contre nos forces de l'ordre. Quand je vois le débat qu'on a depuis des semaines où on mélange tous les sujets, où on mélange la question de la lutte contre le racisme sur laquelle on doit être implacable, avec la question des méthodes de maintien de l'ordre dans notre pays, ce qui n'a rien à voir, donner le sentiment que notre police serait une police raciste, serait une police violente, on ne peut pas accepter de laisser dire ce genre de choses. C'est faux. Nous avons des forces de l'ordre dans notre pays qui se lèvent chaque matin avec un seul objectif, qui est de nous protéger. Il y a quelques jours dans les Yvelines, vous savez, on a rendu hommage à deux policiers. C'est la fameuse tuerie de Magnanville. Magnanville, c'est quoi? C'est un jeune couple de policiers qui vient être brutalisés, massacrés à leur domicile, devant les yeux de leur enfant de 3 ans et demi. C'est ça aussi la peur que vivent nos forces de l'ordre dans notre pays. C'est ce qu'ils me disent par exemple quand on visite un commissariat. On dit, vous savez, nous, nos voitures, on les gare pas juste à proximité du commissariat, parce qu'on n'a pas envie qu'elles soient repérées et parce qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous chercher dans nos domiciles. Donc, quand il y a, et s'il y a à un moment des gestes malheureux, s'il y a parfois de la violence, elle doit être sanctionnée. Mais je ne supporte plus qu'il y ait une forme de, je sais pas, d'espèce de bien-pensance qui s'empare où tout d'un coup ça fait bien de dire que notre
police... On déteste la police.
Ouais.
On l'entend dans les manifestations. Enfin, on l'entend maintenant.
On a marché,
on le lit sur des
on
murs.
On était des millions à marcher après les attentats à dire justement notre reconnaissance et notre admiration de nos forces de l'ordre. On chantait avec Renaud, j'ai embrassé un flic. Et c'était pas dit que Renaud chante ça à un moment, il l'avait reconnu d'ailleurs dans sa vie. Donc à un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on considère qu'il est de bon ton aujourd'hui de dire qu'on déteste la police. Moi, je suis fière de notre police républicaine, je suis fière de nos gendarmes, et je pense qu'on devrait tous le dire, parce qu'encore une fois, on n'est pas nombreux, à mon avis, à accepter de faire ce qu'ils font. Et si on veut continuer à recruter aussi des policiers et des gendarmes dans notre pays, il faut à la fois, évidemment, de l'exemplarité dans la police, mais il faut aussi que nous, citoyens, et que nous qui avons accès à la parole, eh bien, on les soutienne. Et je crois que ça, c'est notre responsabilité.
Est-ce que le gouvernement doit donner plus de moyens aux forces de l'ordre pour réprimer la violence ?
Je crois qu'il y a déjà eu des moyens qui ont été augmentés. Il y a eu à la fois des recrutements. On va atteindre à la fin du quinquennat le niveau de recrutement et de nombre de policiers qu'on avait au début du quinquennat Nicolas Sarkozy. Donc c'est dire la décroissance très importante qui a existé du nombre de forces de l'ordre. On aura recruté dans le mandat 10 000 policiers et gendarmes, à la fois pour renforcer les équipes et puis pour avoir cette fameuse police de sécurité du quotidien qui permet de lutter systématiquement dans nos communes, dans nos villages contre les incivilités et l'insécurité. Donc déjà la première chose, de donner des moyens, c'est les moyens de recruter, et ça c'est le cas. Des questions aussi immobilières, il faut voir dans quel état étaient et sont parfois encore un certain nombre de nos commissariats, nos gendarmes qui sont logés eux dans les casernes, où on voit la difficulté parfois immobilière qui existe. Donc là aussi, il y a eu des programmes immobiliers massifs et majeurs pour renforcer les conditions de vie et d'accueil de nos policiers et de nos gendarmes.
Mais oui, mais il y a aussi une incompréhension de la part des policiers et gendarmes eux-mêmes. Aurore Berger, lundi dernier, mardi matin, même ici même, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce la fin de l'utilisation de la technique d'interpellation clé d'étranglement. Et puis, pression des syndicats de policiers, il revient sur sa décision. Il nous dit que c'est encore permis tant qu'il n'y aura pas une autre technique. Voyez, ces atermoiements, ces hésitations, ces changements de décision, ça ne facilite pas les choses. Et ça met les policiers en colère, Aurore Berger.
La colère, non, je crois que la colère, oui, est aussi due à un discours ambiant que je dénonçais il y a quelques minutes, qui est qu'à un moment, il y a cette facilité à dire en permanence que l'on désigne à la vindicte populaire des policiers et qu'on fait des amalgames qui n'ont pas lieu d'être. Encore une fois,
est-ce qu'on n'est pas en train de réagir en fonction de ces discours, justement, influencés par ces discours?
Mais il y a plusieurs choses.
Même le gouvernement.
Je ne crois pas que le gouvernement les tienne. Laurent Nunez était encore hier à Dijon. Pourquoi il est allé à Dijon? Déjà pour soutenir les forces de l'ordre. Parce qu'il y a eu là aussi un discours qui est faux, qui était de dire que les forces de l'ordre n'étaient pas présentes. Dès le vendredi 12 juin, les forces de l'ordre, elles étaient là.
Elles ont interpellé qui? Elles ont appréhendé qui?
Mais elles ont interpellé et appréhendé un certain nombre de personnes.
Pas un seul Tchétchène n'a été appréhendé.
Oui, mais vous savez très bien que beaucoup de vidéos circulent.
Combien de maghrébins maghrébins ou pas d'ailleurs, ont été interpellés?
Jean-Jacques Bourdin, sur ce sujet, vous savez déjà, que la justice a été saisie. Et donc, il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes. Il y a eu énormément de vidéos, malheureusement, qui ont circulé. Alors, les vidéos, elles sont impressionnantes, elles sont spectaculaires, elles sont surtout intolérables. La voiture, notamment, qu'on a vue, etc., etc. Mais il y a aussi, du coup, un certain nombre de personnes qui sont identifiables. Et donc, c'est là-dessus que la justice travaille avec la police de manière à pouvoir les identifier. D'autre part, le président de la République a pris un engagement très fort qui était de dire que si des personnes étaient appréhendées et étaient en train d'essayer de demander un statut de réfugié politique, eh bien, ils ne l'obtiendraient pas, parce qu'à un moment, statut de réfugié politique, c'est un statut qui est essentiel pour des personnes qui sont elles-mêmes en danger, et on ne veut pas que ce statut soit dévoyé par des gens qui ne le méritent pas. Qui font une expédition punitive et qui demanderaient en même temps le statut de réfugié
sans jamais affronter la police, les Tchétchènes. Jamais. Mais ils n'ont jamais affronté la police. Expédition punitive. On est d'accord, Berger, mais pourquoi est-ce que... Pas de policiers, il y avait très peu de policiers.
Ils ne sont pas intervenus vendredi. Il y a eu des policiers, évidemment, dès vendredi, et il y a eu ensuite des renforts.
Ils ont laissé les Tchétchènes agir samedi soir, les policiers, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'empêcher les Tchétchènes.
Les policiers ont agi autant qu'ils l'ont pu face, vous l'avez vu, à des images qui sont spectaculaires et d'une rare violence. On a maintenant 150 forces mobiles qui ont été mobilisées, et le ministre Laurent Nunez l'a redit hier de manière très claire. Ce dispositif restera le temps qu'il faudra de manière à ce que le calme revienne à Dijon. Et ce type de dispositif sera déployé partout où ce sera nécessaire sur le territoire.
Et est-il possible de désarmer en partie la police, comme le demande Jean-Luc Mélenchon ?
Mais est-ce qu'il a envie justement qu'on continue à avoir des événements comme ceux qui se sont passés à Dijon ? Vous m'interrogez tout à l'heure sur les images de la manifestation.
Oui.
Où en effet, il y a eu aussi ces moments de fraternité entre ceux qui incarnent le service public dans notre pays, c'est-à-dire à la fois les hospitaliers qui manifestaient et les forces de l'ordre qui étaient là pour encadrer. J'ai vu aussi, par exemple, des ambulanciers remercier les forces de l'ordre publiquement en disant « Vous nous avez protégés. Vous nous avez protégés de ceux qui ont voulu s'infiltrer, de ceux qui ont voulu aussi nous-mêmes essayer d'attenter à nos vies et de nous blesser. » C'est ça aussi qui s'est passé hier. Alors, on peut toujours isoler une ou deux vidéos. On ne sait pas d'ailleurs toujours ce qui se passe juste avant, juste après. On peut malheureusement commenter les violences qui ont existé parce qu'il y a eu des violences hier, notamment aux Invalides. Mais il y a eu aussi ces moments de fraternité qui rappellent aussi le rôle essentiel de notre police républicaine qui a été de permettre ces mobilisations, ces manifestations et de les protéger.
Aurore Berger, les soignants demandent, ont manifesté. Et dans les rassemblements à Paris ou en province, beaucoup d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignantes, moins de médecins, mais beaucoup de ce personnel qui s'est battu contre le Covid-19, ce personnel qui attend maintenant des conclusions du Ségur et qui attend ce point d'étape demain. Est-ce que ces personnels, notamment infirmières, aides-soignantes, personnels de l'hôpital, seront augmentés de 300 euros par mois ?
Alors, je ne peux pas vous dire le montant, parce que ça, c'est le ministre de la Santé qui l'annoncera. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils seront augmentés. Il y aura une revalorisation des salaires, et pour ceux qui travaillent à l'hôpital, et pour ceux qui travaillent en EHPAD.
Est-ce que vous avez conscience que s'ils ne sont pas augmentés de 300 euros, la situation va s'aggraver ?
Écoutez, encore une fois,
je ne suis
la pas
question.
Ministre de la Santé.
Non, mais voilà. Je vous pose, vous êtes député,
ce que je sais,
Aurore Berger.
C'est qu'il va falloir qu'on soit à la hauteur de l'engagement exceptionnel de nos soignants. Et donc, être à la hauteur de l'engagement de nos soignants, c'est revaloriser leur salaire.
Oui, revaloriser.
Là, tout le monde est d'accord, et je crois que les Français seront d'accord aussi sur le sujet. Mais vous savez, on a beaucoup augmenté le budget de l'hôpital depuis 2017, mais je pense que ça, c'est important de le rappeler.
Même si on a baissé le budget de la santé.
Non, attendez. Il y a quelque chose de technique dans notre pays depuis 96 qui dit qu'on fixe en fait une règle de dépense. C'est-à-dire que chaque année on dit on ne peut pas dépenser plus que cette somme-là pour à la fois toute la partie hospitalisation et puis tous les soins que vous faites en ville. Nous on l'a augmenté de 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an, ça c'est l'engagement supplémentaire. On a dit aussi une chose très importante sur la dette de nos hôpitaux. Les hôpitaux dans notre pays étaient pour certains très endettés. Quand vous êtes endetté, ça vous empêche d'investir tout simplement. On va supprimer un tiers de la dette de nos hôpitaux, c'est-à-dire 13 milliards d'euros qui vont être rendus à nos hôpitaux pour leur permettre d'investir. Et je pourrais continuer sur les investissements qui ont été faits. Donc il y a à la fois l'urgence et la nécessité à la fois des investissements, il y a l'urgence de la revalorisation des salaires, et puis il y a quelque chose aussi que nous ont dit les soignants qui était très significatif pendant la crise, c'est finalement pendant la crise, on a été plus agile, on a eu moins de carcans administratifs, bureaucratiques, et certaines choses qui ne pouvaient pas exister, on a réussi à les conduire. Donc on a aussi ça, ce sur quoi on doit s'interroger, sur l'organisation bureaucratique aussi qui existe et qui parfois sclérose nos hôpitaux publics et les empêche de travailler. Et ça a été l'inverse pendant la crise, ils se sont sentis plus libres.
Enfin, vous avez conscience que les 300 euros, c'est un point clé.
J'en ai tout à fait conscience.
Pour le personnel soignant.
Le ministre en a tout à fait conscience. Il a travaillé toute sa vie à l'hôpital.
Je sais.
Et encore quand il était député, il tenait à faire ses gardes à l'hôpital. Donc il connaît par cœur, le personnel hospitalier, il est l'un des leurs. Et je crois que c'est aussi important dans la perception qu'il en a.
Je voulais vous poser une question sur le débat autour d'une forme de révisionnisme. Pourquoi dites-vous halte au révisionnisme ? On voit des statues qui pourraient être déboulonnées. Est-ce que d'abord, déboulonner une statue, ça fait avancer le débat sur le passé colonial de la France ?
Mais je crois que le passé, il faut l'affronter. Parce que vous vous arrêtez où ? On va déboulonner des statues, on va dénommer des rues. Prenons un exemple qui n'est pas dans notre pays. Prenons l'exemple, on a commémoré les 75 ans de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Est-ce qu'il faudrait détruire ces camps, qui sont aussi des lieux essentiels pour affronter le passé, pour affronter la mémoire ? Avoir des statues, ce n'est pas uniquement pour honorer, c'est aussi pour dire ça a existé. Et on va être en capacité, nous, de permettre l'éducation de nos enfants, parce qu'on va leur transmettre cette mémoire. On va pouvoir affronter ensemble ce passé. Et si on croit que c'est parce qu'on va déboulonner une statue, qu'on effacera un passé, qu'on estimerait aujourd'hui peu glorieux, parce que c'est plus simple aussi de juger aujourd'hui ce passé à la lumière de ce que l'on connaît, je crois qu'on se trompe profondément. Et ce révisionnisme, moi, il m'inquiète parce que je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller. Quand on voit qu'en Martinique, il y a quelques semaines, on a fracassé des statues de Victor Schœlcher. Schœlcher, c'est celui qui a permis, qui a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Et on détruit ses statues en disant « oui, mais il n'a pas été le seul à permettre cela ». Oui, il n'a pas été le seul. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait oublier son rôle à lui fondamental ? Et je crois que tout ça, c'est extrêmement pernicieux comme débat. Et surtout, ça n'a pas de fin. Parce qu'on aura tous autant que nous sommes, des voix différentes, des avis différents sur ce qui mérite d'être retenu ou non de notre passé. Et moi, je pense que notre passé, c'est un bloc, qu'il faut l'assumer, qu'il faut l'affronter, qu'il faut s'y confronter si besoin, parce que sinon, on ne saura pas d'où on vient et on ne sera pas en capacité d'aller mieux dans ce pays.
Aurore Berger, vous venez d'un mouvement politique héritier du général de Gaulle, du gaullisme. Marine Le Pen sera sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Elle se dit gaullienne et non gaulliste. Comment réagissez-vous ?
Mais je crois qu'il faudrait revenir aux fondamentaux de ce qu'est l'extrême droite et de ce qu'est l'héritage du Front National ou Rassemblement National, qui n'ont jamais été des gaullistes, qui ont même combattu de manière très claire le général de Gaulle. Donc je veux bien qu'elle essaye de s'approprier les différentes mémoires de notre pays. Moi, je suis ravie qu'on veuille s'approprier le général de Gaulle. Il appartient pas à un parti politique. Le général de Gaulle, il appartient à tous les Français.
N'a-t-elle pas le droit aussi de changer d'avis, d'opinion ?
Mais qu'elle le dise clairement.
Et de faire référence à Charles de Gaulle.
Qu'elle dénonce dans ces cas-là celles et ceux qui ont fondé le parti auquel elle appartient et dont elle a hérité jusqu'au patronyme. Qu'elle dénonce son père et qu'elle dénonce la manière avec laquelle il a été d'une virulence inouïe à l'encontre, justement, du gaullisme et à l'encontre du général de Gaulle. On peut pas en permanence essayer de s'approprier des mémoires sans être au clair avec qui on est et d'où on vient. Et l'extrême droite ne s'est jamais fondée dans le respect du gaullisme, bien au contraire. Donc je crois qu'une clarification à minima dans ces cas-là s'imposerait plutôt qu'une tentative de récupération. C'est pas plus glorieux que la récupération qu'elle a tenté de faire hier à Dijon en allant souffler sur les braises. Vous avez d'un côté, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon qui dit « désarmons la police », formidable. Comme ça, nos forces de l'ordre n'auront plus les moyens d'agir, de nous protéger et d'être protégés eux-mêmes. Et vous avez de l'autre côté Marine Le Pen qui, elle, n'a qu'une envie et qu'une hâte, c'est d'aller souffler sur les braises parce qu'elle attend et elle espère le chaos dans le pays. C'est ça, c'est cet étau-là dans lequel certains aimeraient nous prendre. Et je crois qu'on doit avoir au milieu et être nombreux à affirmer une voix républicaine et une voix de raison face en ce moment à une forme de déraison qui peut s'emparer du pays.
Alors j'ai deux dernières questions. Les retraites, est-ce que ce sujet va revenir sur le tapis avant la fin de l'année ?
Avant la fin de l'année, pour des raisons d'agenda parlementaire, je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que cette réforme, on l'a portée pendant ces trois dernières années et je ne pense pas que la crise vienne remettre en question les fondamentaux de cette réforme. Est-ce que oui ou non, on veut avoir enfin de la lisibilité de la justice ? Je ne peux pas vous dire si elle le sera, mais moi je pense que ce serait utile qu'elle le soit.
Bien. Et puis dernière question concernant Édouard Philippe. Je sais que vous êtes proche d'Édouard Philippe. Est-il plus risqué pour Emmanuel Macron de continuer avec Édouard Philippe ou de nommer un nouveau Premier ministre ? Qu'en pensez-vous ?
Oui, il serait risqué de continuer avec un Premier ministre qui a démontré une totale loyauté et solidité. Le choix du Premier ministre, il appartient pas à Aurore Berger, il appartient à une seule personne dans notre pays, qui est le président de la République. Oui. Le président de la République fera son choix.
Vous souhaitez que Emmanuel Macron garde... Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron garde Édouard Philippe ?
Ce que je sais, c'est que nous avons un Premier ministre qui est apprécié des Français, qui est solide, qui est loyal, qui est apprécié par sa majorité parlementaire. Mais quel que soit le choix du président, il lui appartient et à lui seul.
Non,
et le Premier ministre lui-même l'a rappelé
hier. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il reste Premier ministre, tout simplement ?
Je crois qu'il est clair dans mes propos que vous voyez bien à la fois l'admiration que j'ai pour le Premier ministre que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Et je crois que dans des périodes qui sont des périodes de crise, qui sont des périodes de tension, il a démontré sa totale solidité vis-à-vis des Français.
Donc vous souhaitez qu'il
humilité,
reste.
Mais aussi loyauté
vous
vis-à-vis du président de la République. Mais ça, c'est vous qui en déduisez ce que vous voulez.
Non, je vous pose la question.
Mais c'est très bien
vous
qu'après, on va avoir
reste.
Un petit bandeau en disant « la porte-parole dit que ». Donc moi, c'est pas
la
mon sujet.
La porte-parole dit qu'elle souhaite que le Premier ministre reste à son poste.
La porte-parole vous dit que le Premier ministre est loyal, solide et qu'il l'a totalement démontré dans les différentes crises qu'on a vécues et que le choix appartient au président de la République et à lui seul.
Ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la République, si j'ai bien compris.
Je crois que c'est très clair, en effet. Il a démontré sa loyauté encore une fois.
Bien, merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.